Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aligre FM. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au fil des pages, présenté aujourd'hui par Nadia et Taïeb. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Alexandre Tarot, pianiste dont le talent n'est plus à démontrer. Mais Alexandre Tarot, c'est aussi un écrivain. Il publie aux éditions Grasset un récit intime intitulé « Touché ». Alexandre Tarot, bonjour.
Bonjour Nadia.
Dans Montrez-moi vos mains, qui était paru en 2017 aux éditions Grasset, vous nous parliez de votre métier et vous nous offriez l'occasion de franchir la rampe pour approcher au plus près du pianiste, de son attente dans les halls d'aéroports, dans les loges, puis dans des grandes salles et finalement d'entrer au plus près de l'interprète et de son instrument au moment fatidique des concerts. Aujourd'hui, vous nous livrez un récit encore plus intime qui fait une large place à l'enfance et à l'adolescence, à tout ce qui a façonné le musicien, bien sûr, mais aussi l'homme avec ses doutes, ses peurs, ses failles et même ses gouffres, terme que vous employez dans ce récit. Il ne s'agit non pas, vous le précisez, d'un récit autobiographique, mais plutôt de scènes choisies de votre jeunesse. Un récit où se déploie une palette nuancée, faite de dévoilements, parfois douloureux, et de distances amusées. Une façon pour le lecteur, donc, de démythifier le mythe du talent et du génie supposément facile pour passer de l'autre côté de la scène, de son temps suspendu dans le cérémonial et l'alchimie des concerts. On écoute un extrait de Couperin avant de revenir à l'interview. Thank you. Voilà, et ce n'est pas un hasard, Alexandre Tarot, vous vous en doutez, j'ai choisi ce TikTok choc de Couperin pour vous introduire comme une remontée dans le passé, puisque c'est d'abord grâce à cet album que je vous ai découvert.
Ah ouais.
Et ça marque pour vous, dans votre carrière, un tournant, vous l'évoquez dans ce récit dont je parlais dans mon introduction, Touché, on va en parler évidemment, mais je voudrais d'abord vous demander ce que représente ce moment dans votre carrière et pourquoi ce choix d'avoir ouvert pratiquement, il y a eu d'autres enregistrements avant, on en parlera peut-être, mais celui-ci marque vraiment votre entrée dans la carrière qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi une œuvre pour clavecin ?
Eh bien, ce répertoire, d'abord, il y a eu Rameau 2 ans avant le clavecin, et c'est vraiment l'album Rameau qui m'a... qui d'un coup, alors que je jouais pas beaucoup, je faisais beaucoup de musique de chambre, je jouais avec les autres, mais seul sur scène, ou jouer des concertos avec orchestre, c'était encore difficile. Les engagements ne venaient pas, enfin, s'ils venaient, c'était au compte-gouttes. Et j'avais un agent déjà, mais elle se désespérait. D'ailleurs, je lui disais, mais vous savez, je vais sortir un disque Rameau, puis un disque Couperin dans 2 ans. C'est de la musique baroque, ça se fait pas beaucoup maintenant, quand même, ça fait longtemps. C'est que je vous demandais toujours de faire quelque chose d'original qui me démarque des autres, et elle n'y croyait pas du tout, d'ailleurs, personne n'y croyait. Puis j'ai sorti. D'abord, donc 2 ans avant ce Couperin, un disque Rameau, et subitement, mais vous savez, le monde de l'art, tous les mondes de l'art sont bizarres, et puis tout d'un coup, les gens se précipitent, ce n'était pas un disque révolutionnaire, ce n'était pas non plus un disque extraordinaire, mais tout d'un coup, alors que j'avais enregistré 12 disques avant tout de même, qui étaient passés quasiment inaperçus, tout d'un coup, ce disque-là, m'a ouvert les portes d'une véritable carrière internationale. On s'en est amusé avec mon agent. On a bien rigolé, on était heureux. Mais en même temps, on avait, elle comme moi, je crois, à l'époque, assez de distance pour supporter ça, pour supporter cet afflux de concerts soudain. Mais cette musique, au fond, n'avait jamais cessé d'être jouée dès que le piano est arrivé dans l'histoire. Vous voyez, le piano moderne, il y a d'abord eu le clavecin, ensuite le piano forte, puis le piano... tel qu'il est conçu aujourd'hui. Bon, il y a eu pas mal de changements depuis, mais enfin, c'est le piano de Liszt, de Chopin, c'est-à-dire le tout début du 19e siècle, il y a exactement 2 siècles. Et dès que le piano éclot, il y avait 350 facteurs de piano à Paris. On appelait Paris Pianomania, c'est-à-dire vraiment, c'était la capitale mondiale du piano. Facteur de piano, ça veut dire petite usine. Et donc, il y avait des concerts à tout va, des concerts de piano. Mais dès que ce piano, cet instrument considéré comme très moderne à l'époque, arrive sur le marché, eh bien, on joue la musique baroque sur cet instrument. Et ça a continué comme ça jusqu'aux années 60, 1960, où les baroqueux, ce qu'on appelle les baroqueux, les spécialistes de la musique baroque, sont arrivés à leur tour et ont dit « Attention, la musique baroque, au clavecin, ça se joue comme ça, ça se joue pas comme ça. » Et c'est vrai que nous, on jouait cette musique dans un style tout à fait approximatif. Alors, Nous nous sommes tus pendant, on va dire, 3 décennies, 4 décennies. Et moi, je me suis dit qu'il était temps, c'est 2001, qu'il était temps, riche de tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a appris par ces baroqueux, ces spécialistes de la musique baroque, de rejouer cette musique sur piano.
Alors, il y a la musique, Alexandre Tarot, et puis dans ce dernier livre que vous avez intitulé « Touché », on reviendra sur ce titre, il y a aussi le récit de votre enfance, de votre adolescence, et aussi par bribes, en creux, il y a des pages qui résonnent avec ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qui réinscrivent votre histoire individuelle dans la grande histoire de la musique. Il y a donc la musique et il y a les mots. On dit souvent que la musique est un langage universel. D'où est venu le besoin de compléter ce langage par celui des mots ?
L'avion. Les heures d'attente, les heures interminables dans les avions, dans les trains, dans les loges de théâtre, de salles de concert, dans les chambres d'hôtel. Le métier de soliste voyageur, c'est un métier qui prend beaucoup, qui isole beaucoup, qui éloigne beaucoup de nos proches, des gens que l'on aime. Et c'est beaucoup de solitude. Ça ne veut pas dire qu'on a le sentiment de la solitude. On peut être seul et ne pas se sentir seul, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les trains, dans les avions, surtout dans les avions, un peu moins dans les trains et encore un peu moins dans les lieux qui ne bougent pas, j'écris facilement. J'étais un enfant peu doué à l'école, donc je ne peux pas dire que j'écris de manière innée, mais ça sort plus facilement dans une cabine qui bouge, et si possible un avion. Et voilà ce qui m'a amené à écrire. D'abord un livre à quatre mains avec un musicologue, Nicolas Souton, c'est Piano Intime, c'est sur l'univers du disque. Ensuite, Montrez-moi vos mains, vous en avez parlé. Et puis après, grâce à Olivier Nora, le directeur de Grasset, qui s'est fait limoger de manière abominable et à qui je dois beaucoup, il recevait mon manuscrit, mes manuscrits successifs. Il voyait bien que ce n'était pas terrible, alors il me disait très gentiment, cash, mais avec beaucoup de... beaucoup de compréhension et de respect. J'ai toujours été vraiment incroyablement surpris. Moi qui ne suis pas écrivain, vous avez dit tout à l'heure que j'étais écrivain, je ne me sens pas écrivain. Mais justement, être respecté par ce grand homme de l'édition et qui me fait sortir en plus deuxième livre dans la collection jaune de Grasset, la collection de grands écrivains que j'estime énormément. Voilà, je lui dois beaucoup à Olivier Nora et il a, année après année, lu mes manuscrits pour arriver l'année dernière à me dire écoutez là je crois qu'on y est, vous pouvez peut-être faire ça et on le sort en avril prochain.
C'était des mots écrits pour être lus, d'autres?
Pas forcément. Vous voyez, en ce moment j'écris, là je prends le train pour Rennes ce soir, je vais écrire, j'écris autre chose sur un autre sujet et puis on verra si ça sort ou pas. Je pense que tout le monde peut écrire. Même maladroitement, je suis la preuve vivante qu'on peut écrire maladroitement et après travailler pendant des années, puisque ce livre a mis 20 ans pour être publié, travailler ses phrases, travailler le mot juste, essayer de se rapprocher de soi-même, de sa conception du monde, de sa perception, de sa conscience. Et je crois vraiment que tout le monde peut écrire, parce que nous avons tous une vie extraordinaire, un parcours unique, quelque chose qui fait que... on ne ressemble à personne d'autre. Et ça vaut le coup de témoigner.
Alors, il y a l'écriture liée à l'attente, dont vous parliez beaucoup dans Montrez-moi vos mains, un peu moins dans ce deuxième récit, Alexandre Tarot. Et puis, il y a l'écriture qui obéit à une nécessité. Et quand on lit ces pages, qui sont jalonnées d'entractes, de chapitres que vous avez intitulé Entracte, où la typographie change, comme pour nous signaler qu'on passait à un autre niveau d'écriture et peut-être de lecture. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de la confession, de l'intime, de la quête de soi, d'un récit aussi qui nous dit combien il a été difficile de, d'une certaine manière peut-être de vous réconcilier aussi avec certaines choses de cette carrière qui a aussi brutalisé votre corps, votre vie. Vous êtes un homme d'insomnie, je ne sais pas si vous l'êtes encore aujourd'hui, mais en tout cas c'est présent dans vos deux récits. Et je me dis que lorsqu'on atteint ce degré-là de dévoilement, il y a dans l'écriture quelque chose qui correspond à une absolue nécessité.
Probablement. Je ne sais plus quel psychanalyste a dit que écrire c'était oublier. Alors je ne sais pas si c'est oublier, mais c'est tout de même tourner la page, tourner une page et passer à autre chose. D'ailleurs, depuis que ce livre est sorti, je sens bien que j'ai une nouvelle étape dans ma vie, que je démarre un nouveau chapitre de ma vie. Et différents signes sont arrivés dans les semaines précédant la sortie du livre. Assez incroyable, jusqu'au jour même de la sortie du livre, puisque Olivier Nora a été limogé le jour de la sortie de mon livre. Et je suis parti de chez Grasset avec les 219 autres auteurs.
Oui, j'ai vu que vous le même jour.
Donc c'était quelque chose d'absolument incroyable. Oui, il y a certainement cette envie aussi de... Parce que je trouve que le métier de pianiste fait rêver. Hein? Beaucoup d'enfants se rêvent pianistes ou jouer sur une scène avec des milliers de personnes qui les admirent, qui les congratulent. Des voyages peut-être aux quatre coins du monde. Et seule la face étincelante de cette vie leur a été révélée. J'ai envie de dire attention aussi. Attention, d'abord tout le monde n'est pas fait pour être soliste, on peut s'abîmer beaucoup. Et puis il faut au moins voyez, les jeunes qui sortent des grandes écoles internationales ne savent pas tout de ce métier. C'est normal, mais ne savent pas, je dirais, des choses essentielles. Comment renouveler un répertoire, comment se faire au décalage horaire, comment se faire aux insomnies, comment jouer devant un public japonais plutôt qu'un public montréalais, comment faire avec la dureté, comment recevoir par gifle les critiques et les commentaires, parce qu'être un artiste, c'est en recevoir, pardonnez-moi l'expression, plein la gueule toute sa vie jusqu'au bout, même si on est le plus grand. Il y a beaucoup de choses essentielles, celles qui font le plus mal, qui ne sont pas apprises. Ni même évoqué dans les grandes écoles de musique. Alors je trouve que ça vaut le coup, oui, de dire attention. Vous voyez, je pense qu'un musicien, c'est quelqu'un qui dit attention. C'est attention, écoutez, ce compositeur, Beethoven, c'est génial, mais ça veut dire aussi parfois, attention, telle œuvre de ce compositeur génial n'est plus jamais jouée, écoutez-la, ça vaut le coup. Attention, tel compositeur pas du tout connu vaut le détour. Mais ça peut être parfois prendre son téléphone et dire attention à tel organisateur de concert. Il y a ce pianiste qui était merveilleux, tout le monde se l'arrachait, puis ça fait 5 ans qu'il n'a plus de quoi payer son loyer, essaye de l'inviter. Vous voyez, quand on est interprète, on est là aussi pour préserver.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, il y a toute cette part plus ombrageuse, effectivement, d'une carrière de soliste, quelque chose qui nous emmène au-delà du cérémonial, je le disais en introduction, et de tout ce qui nous fascine lorsqu'on vous écoute en concert. Et ce récit, c'est aussi de très belles pages sur, j'ai envie de dire, presque une violence de l'apprentissage. Vous êtes passé d'un professeur très
merveilleux,
voilà,
un professeur plus dur,
voilà,
et que j'adorais, mon professeur au conservatoire
de
Paris.
Monnier, je crois.
Ouais, vous voyez, ça laisse des traces quand on est en pâmoison devant un professeur, mais qui vous torture au fond. Et c'est quelque chose qui reste à vie, même si je l'ai bien travaillé par la suite. Et j'ai retrouvé d'ailleurs ce professeur un jour j'étais jury à l'école normale de musique à Paris, et elle descend le grand escalier en bois de cette école normale, parce qu'elle devait avoir des élèves qui passaient le concours. Et je la croise, elle ne me reconnaît pas, je lui dis « Madame Mounier », puisque c'est son nom. Elle me regarde avec un grand sourire, je lui dis « Alexandre Tarot ». Ah, Alexandre !» Et elle m'a dit « Mais vraiment, qu'est-ce que je suis très heureuse pour ta carrière, ça me fait tellement plaisir de te voir ». Moi-même, j'aurais pu utiliser ce moment pour lui dire « Mais vous savez, vous m'avez fait tellement souffrir ». J'ai eu tellement d'insomnie à cause de vous. J'ai tellement pleuré à cause de vous. Mais non, là, elle était plus âgée. Enfin, elle avait 10 ans de plus. Et c'était justement le moment de se réconcilier. Et je lui ai dit, moi aussi, ça me fait plaisir. Et c'est tout. Et on a continué notre chemin. Elle est décédée quelques années avant. Après, je pense qu'elle avait... Je suis persuadé qu'elle a été heureuse de ce moment parce qu'on ne se parlait plus du tout, plus de conservatoire. Et parce que j'étais tout de même son élève qui avait le mieux... marcher, entre guillemets.
Il y a des pages où vous décrivez une partition utilisée lors d'un concert qui est un peu comme un palimpseste où il y a les annotations de Madame Tacon,
ouais,
pardon.
Premier professeur toute douce.
Voilà, et celle de cette Madame Monnier. Mais c'est quand même aller loin, cette violence de l'apprentissage, puisque c'est un moment de votre vie où vous êtes fragile, que vous entrez dans l'adolescence, avec aussi, on en parlera, une homosexualité qui se révèle à vous et que vous ne pouvez pas vivre pleinement. Et vous songez à ce moment-là à vous casser le bras pour ne pas passer un concours, je crois.
Oui, ça c'est la deuxième année de... Je veux dire, c'est vraiment très drôle. Première année, ce professeur que j'adore au Conservatoire National m'adore aussi pendant un an, de septembre à juin, pendant l'année scolaire. Et elle dit à tous les autres, elle les regarde parce qu'on était obligés d'assister à nos cours, ce qui était terriblement ennuyeux. Il fallait qu'on reste des après-midi entières dans la salle pour écouter les autres. Et elle leur dit, mais regardez, il n'y a rien à dire, il est fabuleux. Donc elle ne me disait rien et j'étais apparemment fabuleux. Et la deuxième année, elle est revenue, et là, elle avait totalement changé. Et elle était vraiment très dure avec moi, et je ne m'étais pas préparé à ça, d'autant que mon tout premier professeur n'était que douceur. Et c'est là que j'ai commencé à aller très mal, et ça a duré longtemps. Et vous savez, en fin d'année, il y a ce qu'on appelle une audition des élèves, qu'on a dans quasiment tous les conservatoires, peut-être tous les conservatoires de France et de Navarre. Et pour cette audition, elle nous donnait des morceaux qui devaient nous mettre en valeur. Et moi, elle m'a donné un tout petit morceau de Lise qui s'appelle La Ronde des Lutins, qui dure 2 minutes 30, qui est un épouvantable casse-gueule. Et je l'ai préparé très tard, elle me l'a donné très tard. Donc, je me sentais mal à côté aussi de mes petits camarades qui jouaient des morceaux plus larges, peut-être plus faciles ou qui faisaient plus d'effets. Et puisque je commençais à avoir des insomnies, que j'allais très mal, elle me faisait peur, le conservatoire, je n'en voulais plus. J'étais en pleine adolescence, tout allait mal. Et donc, ce petit casse-gueule de 2 minutes 30, je n'en voulais pas. Et la veille de l'audition, je me suis dit, je ne peux pas. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin, vous dites, non, je ne peux pas. Comme quand un burn-out vous tombe dessus, je ne peux pas. Et donc, la veille, c'était pas le matin, mais la veille au soir, j'ai voulu me casser le bras. On habitait au premier étage, donc je me disais, comment je fais pour tomber sur le bitume en me cassant un bras, mais pas plus. Je me disais, bon, les deux bras, ce serait un peu difficile parce que je ne pourrais plus écrire ou faire des choses. Il faudrait que je me mette sur le côté droit, comme ça. J'imaginais plein de choses. J'étais complètement idiot. Hein. J'étais un adolescent idiot. Et puis, j'ai eu peur. Donc, je suis allé dans le salon. On n'était pas très riche, mais il y avait quand même une petite cheminée en marbre. Et sur cette cheminée en marbre, j'ai tapé mon bras droit, mon avant-bras droit, vous voyez, comme ça, paf, 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 comme je le fais là sur la table. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Alors ensuite, j'ai essayé dans l'encablure de la porte, mais les portes sont assez légères, ça rebondissait sur mon bras. Donc au bout d'une heure de recherche, je m'en suis remis aux fondamentaux. Je me suis mis dans le lit, j'ai oui. pris le thermomètre, je l'ai mis, quoi, 15 secondes, je ne me rappelle plus, là, j'espère que les enfants ne nous écoutent pas, 15 secondes sur une ampoule, de l'ampoule de ma lampe de chevet, pour que ça fasse 38,5, vous voyez, pas trop, parce que je n'étais pas chaud, mon front n'était pas chaud, il fallait que ce soit une fièvre, et le docteur est passé le lendemain matin, et je me souviens être dans ma chambre, et j'entends ma mère qui appelle mon professeur, le matin de l'audition, il dit, oh, vous savez, Alexandre est désespéré, il ne peut pas venir ce soir, il a de la fièvre, on est vraiment désolé. Quand j'ai entendu la voix de ma mère dire ça à mon professeur, j'étais délivré, tellement heureux, tellement heureux.
Alors, ça donne effectivement des pages terribles et truculentes en même temps, puisque tout ça se termine assez bien. Mais on ne peut pas s'empêcher, en tout cas, je me suis posé la question de se demander... Ce qui fait, quand on passe par des moments comme ça dans l'apprentissage à un très haut niveau de la musique, que l'on peut, à cause d'un enseignement, à cause d'une atmosphère aussi pétrie de compétition, de concours, etc., de comparaison, ce qui fait qu'un jeune homme, une jeune femme peut passer à côté du plaisir,
ah oui.
et ce qui fait qu'au contraire, il arrive à passer outre Absolument. Et à ne garder que le plaisir de l'interprétation, ouais. du jeu,
c'est
du
ça.
Jeu dans toute la polysémie du mot que vous évoquez au début de votre récit, Alexandre.
Vous voyez, le Conservatoire National a beaucoup changé depuis. Hein. Là, on parle des années 80. Mais j'ai vu de jeunes musiciens extrêmement doués arrêter non seulement le conservatoire en plein milieu de l'année, mais arrêter la musique.
Totalement.
Oui, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Puis les professeurs faisaient des choses qui aujourd'hui sont... totalement proscrite. Ils pouvaient être très durs, d'autres adorables, mais la mienne n'était pas drôle tous les jours. Et c'est vrai que c'est difficile de parler au nom des autres, mais dans ma vie qui est la mienne, je jouais tellement bien. Je n'étais pas un enfant prodige, mais je jouais tellement heureux au piano, bien avec moi-même. Vous comprenez ? Dans une sorte d'univers où toutes les planètes étaient alignées. Jusqu'à 13 ans et demi, et puis, oui, 14 ans. Puis là, je rentre au conservatoire, et en quelques semaines, tout cela vole en éclats. Et j'apprends à vivre la scène avec la peur au ventre. J'apprends à aller à mon cours de piano sans aucun désir. J'apprends à me trouver, vous parliez de l'homosexualité à l'instant, donc aussi c'est une période où mon identité, comme vous l'avez dit, se révélait. Et donc j'étais... un peu tétanisé par ce qui arrivait, parce que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que l'homosexualité était le péché le plus abominable de la Terre. Et donc, ça s'ajoutait aussi à ce désordre de mon adolescence. Et pendant longtemps, ça a duré. Il a fallu que je parte du conservatoire, donc 10 ans après, et que, en quelque sorte, je réapprenne le piano, je réapprenne le désir, je devienne mon propre professeur. Je jouais, donc vers 22-23 ans, en m'enregistrant sur un petit appareil à cassette magnétique, vous savez. J'appuyais sur record et puis ensuite play, et je me réécoutais et je m'écoutais, pardon. Et là, je notais comme mes professeurs avec des couleurs, mais de manière beaucoup moins violente et plus bienveillante. Je devenais mon propre professeur. Puis j'invitais aussi des amis, chanteurs, violoncellistes, m'écouter, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais ? Et ça n'a pas arrêté d'ailleurs, puisqu'hier, vous voyez, j'ai joué une nouvelle pièce que je mets à mon répertoire bientôt, je l'ai joué à un ami pianiste. Mais il a fallu tout ça, il a fallu cette période du désapprendre, peut-être une période de haine vis-à-vis de l'académie, et une haine envers certains de mes professeurs, et une haine envers le milieu de la musique, parce que les premières années de ma carrière ont été très difficiles. Il a fallu peut-être tout ça pour m'en défaire, et puis être, j'ai l'impression, bien mieux dans ma peau aujourd'hui, et heureux de rentrer sur scène.
Et donc se créer aussi des espaces de liberté, Alexandre Tarot, l'écriture et la double écriture en font partie, puisque vous composez aussi, vous n'êtes pas seulement interprète.
Je voulais être compositeur, et c'est vraiment ce métier qui m'animait, et chef d'orchestre. Mais j'ai senti très tôt que je n'aurais pas le courage d'être devant un orchestre de 80 musiciens. Aujourd'hui, je l'aurais, mais à l'époque, encore une fois, mon adolescence me l'interdisait. Alors que composer, c'était chez moi tout seul. J'écris des œuvres pour orchestre, des concertos, des œuvres pour piano, pour flûte, pour violoncelle, pour chœur. J'adorais ça. Et je montrais mes premières compositions à certains compositeurs, à mes professeurs. Mais finalement, c'est le piano qui a pris le dessus. Alors que je ne voulais pas être pianiste. J'étais un enfant paresseux. Je ne voulais pas travailler 5-6 heures de piano par jour. Ça paraissait inhumain. Et finalement, j'ai aimé travailler au fil de mes années au Conservatoire National. J'ai appris la compétition entre les élèves et cette compétition-là, elle ne m'était pas désagréable. Donc j'alignais mes heures de piano, j'essayais de jouer de plus en plus vite. J'adorais jouer comme une Formule 1, ce qui était une très mauvaise voie, mais j'ai arrêté vite. Et voilà, il a fallu ces années à traverser. Difficile pour être soi-même, pour trouver ma propre voie.
Avec aussi de très belles rencontres que vous évoquez dans ce récit, Alexandre Tarot, touché par exemple avec la veuve de Mio, Madeleine Mio, mais aussi avec Barbara qui est un petit peu comme votre muse.
Muse, oui, médium, sorcière, maman.
Voilà, un peu tout ça à la fois. Je vous propose d'écouter cette voix qui vous a tant bercé et à qui vous avez rendu hommage dans un magnifique album.
Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà, la renifleuse des elle m'a suivi pas à pas la garce, que le diable l'emporte. Elle est revenue, elle est là, avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés. Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées, la garce. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, t'es l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne le blême et jusqu'à mon souffle dernier. Je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leur poème, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout elle me fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La solitude, la solitude.
Aligre FM 93 ans, Barbara, la solitude, pour accompagner mon entretien avec Alexandre Tarot, qui est en notre compagnie depuis ce matin, 10h, si vous nous rejoignez. Alexandre Tarot, en écoutant, m'avait dit « Oh, c'est joyeux !» Et puis finalement, on se disait hors antenne que Barbara avait... une formidable capacité de nous envelopper, de nous aider à accueillir la tristesse. Alors évidemment, si j'ai choisi ce titre, c'est aussi parce que de solitude, il est question dans ce récit dont nous parlons depuis ce matin, touché. Ouais. Vous avez été un enfant à la fois très turbulent, joyeux, aimé, et en même temps un enfant, un adolescent en proie à une grande solitude
et à l'incompréhension.
Et à l'incompréhension. Ouais. Comment cela a-t-il nourri l'homme que vous êtes devenu et comment cela a-t-il aussi peut-être nourri vos choix artistiques, musicaux ?
Tout à fait, oui. Ben, ça l'a nourri. C'est déjà une bonne chose. Et puis l'adolescence, c'est un moment de la vie, par essence, qui n'est pas extraordinaire. Hein. La majorité des jeunes adolescents, enfin des adolescents, on va dire entre 12, 13, maintenant des adolescents plus tôt qu'à mon époque peut-être, jusqu'à 10 à 18 ans, c'est pas la période la plus épanouissante en général. Et oui, alors ça a construit quoi ? L'adolescence, ça construit par les bonnes choses et les mauvaises. C'est-à-dire, les bonnes choses, ce sont des rencontres fondamentales. Peut-être même le premier amour sur lequel nous allons construire notre vie ou les prochains amours. Les choses mauvaises, c'est celles où on va. Ce sont celles qui nous disent attention, ne fais plus cette erreur. Ou, comme pour moi, des mécanismes au Conservatoire de Paris, des phobies. L'homophobie, donc contre ce que j'étais, par exemple. Et ces deux choses-là ont fait que je me suis construit en me disant « plus jamais ça ». Ou alors je vais me construire comme ça. On vous dit que être gay, c'est une abomination, et là, donc vous vous considérez comme une abomination. C'est ça l'adolescence. Aujourd'hui, à cette heure-ci, beaucoup d'adolescents en France, et ne parlons pas de certains pays, ont envie de se foutre en l'air. Parce qu'ils savent pertinemment, profondément qu'ils sont homosexuels et qu'ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas le vivre, ils ne peuvent pas l'évoquer, ils ne peuvent même pas écrire un mot. Certains, s'ils le faisaient, seraient pendus demain matin. Donc c'est quelque chose d'effrayant de devoir se construire à ce moment de la vie, à l'adolescence, sur un dégoût de soi-même. Et donc, ça, puisque vous parliez de nourrir, oui, ça nourrit toute une vie. On se réconcilie avec les gens homophobes que nous avons rencontrés à notre adolescence, par exemple. On ne l'en veut absolument pas. C'était, surtout dans les années 80, systémique. L'État, la télévision, le cinéma, l'art, les gens, les amis, la famille, l'école, etc.
Votre père, qui a ces mots terribles.
Oui, qui a fait du chemin après. C'est ça qu'il faut voir. C'est le chemin qu'il a fait après. Et d'ailleurs, quelques mois avant de mourir, j'ai dit à mon père, tu sais, je vais me marier. Et il était content. Donc c'est ça, c'est le chemin que font nos parents qui est admirable et qu'il faut reconnaître. Ce n'est pas la culture dont ils ont été obsédés, enfin, hein, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer bouger. Voilà, pour moi, ce qu'est un homme, c'est quelqu'un qui se construit sur le tout début d'âge adulte et ce qui le précède, l'adolescence, avec beaucoup de questionnements. Oui, parfois du dégoût de soi-même, des gens qui ne nous aiment pas ou qui nous effraient, des peurs, beaucoup de peurs, des insomnies. Et on fait de tout ça une bonne soupe hein, avec plein d'ingrédients et on se dit ben, c'est avec ce bagage-là que je vais entrer dans la vie active et que je vais m'épanouir. Il ne s'agit pas de les mettre au placard, mais presque de les mettre, de les vomir sur scène. Vous voyez, on a entendu Barbara. Quel artiste a plus que Barbara, c'est plus que Barbara dévoilé sur scène. Toutes ses chansons, chacune de ses chansons parle de sa vie, par voie de sa vie intime. Et quand elle était sur scène, je ne sais pas si vous l'avez vue, au Châtelet.
Malheureusement,
ou à
Mogador, non, mais enfin, vous, oui, vous en parlez magnifiquement.
On pleurait beaucoup dans la salle, mais c'est aussi parce qu'on savait qu'elle nous aimait, qu'on était très important, voire essentiel pour elle, et qu'on l'avait sauvée, mais on ne savait pas encore. Il a fallu qu'elle meure et qu'elle sorte ses mémoires interrompues, où on apprend, pour qu'on apprenne qu'elle avait subi l'inceste et bien d'autres choses horribles dans sa jeunesse. Elle le dit, elle l'écrit, j'ai pu survivre grâce à vous, le public. Mais sur scène, elle disait tout. Vous voyez, pour être un artiste de scène, mais avec un grand A et un grand S, il faut savoir ouvrir là, son poitrail et montrer ce qu'on a à l'intérieur, même ce qu'on ne connaît pas de soi-même.
Aux différents âges de votre vie, Alexandre Tarot, y a-t-il, j'imagine que oui, des compositeurs vers lesquels vous êtes allé justement, pas seulement pour vomir, mais pour vomir en choisissant vos notes. Et justement, pour dans une forme de catharsis, au fond, n'ayons pas peur de choses qui ont été souvent rebattues, pour justement vous libérer du poids de l'homophobie, du poids du regard aussi dont vous parlez dans votre récit, sur votre corps, sur votre maigreur qui fait planer l'ombre du sida, parce que vous avez grandi dans les années sida. Ouais. Est-ce qu'il y a des compositeurs qui vous ont accueilli comme ça?
Absolument.
Lesquels?
Et qui accueillent les adolescents d'aujourd'hui. Ce sont les compositeurs romantiques. Liszt, Chopin, Brahms parfois, Schumann. Chopin, par exemple. Prenons ce Chopin, Frédéric Chopin, qui est le compositeur qui peut nous donner envie de vomir à un moment, parce que quand on en joue tous les jours au conservatoire et quand on est dans les couloirs, on entend tous les élèves travailler des études, des préludes, des ballades. On n'en peut plus de Chopin quand on est pianiste classique. D'ailleurs, certains grands spécialistes de Chopin ont abandonné Chopin en cours de route dans leur vie parce qu'ils n'en pouvaient plus. Bien, ce Chopin-là, on a l'impression, quand on est jeune, qu'il nous comprend. Et c'est vrai que Chopin était probablement homosexuel, qu'il était lui aussi maigre et très blanc, avec une maladie qui le rendrait souffreteux. Mais c'est quelqu'un qui, dans sa musique, ne parle que de ça. D'une colère intérieure, absolument, c'est un volcan Chopin, mais d'une grande douceur. Il passe de la douceur extrême à la violence la plus extrême. Et de l'incompréhension. On le lit dans ses lettres, les lettres de Chopin, c'est vraiment admirable. Je conseille à tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, de lire les lettres de Chopin. Mais dans sa musique, c'est palpable aussi. Alors quand on est un adolescent, on parle beaucoup de l'adolescence, c'est le sujet de mon livre. Chopin peut nous aider. Un peu comme Barbara, il nous dit « Je te comprends, je vis la même chose. » Je ne dis pas que Chopin est homosexuel, il est probablement homosexuel, on n'était pas dans sa chambre à coucher. Hein.
Et il était exilé aussi.
Un arraché, oui, à sa terre natale, il est parti à 17 ans, il n'est jamais retourné en Pologne. Donc il y avait ça pour lui, la Pologne, sa famille, les petits champs de la campagne, des villages, ça rejaillit dans sa musique, mais comme quelque chose de joyeux, mais d'extrêmement mélancolique, de lointain.
Alors on va l'écouter, interprété par vous. C'est l'album Journal Intime, titré comme un récit, oui. Cet album. Un peu comme aurait pu l'être ce récit touché. On parlera du titre tout de suite après la pause, sauf si nos vagabondages nous emmènent ailleurs.
«
Voilà Alexandre Tarot qui jouait Chopin dans Journal Intime. Comment réécoutez-vous cela, Alexandre Tarot,
puisque... J'entends un enfonçage là, oui. Ça, j'étais adulte, hein, ça fait un disque qui est sorti il y a une quinzaine d'années, mais je m'entends encore. C'est un enregistrement qui s'était passé de manière assez difficile, mais le son est magnifique. Le son est magnifique. Pas mon son, le son de la prise de son. Hein. Le piano aussi. J'entends, et c'est tout le travers de l'enregistrement, c'est qu'on est toujours trop sage. On a l'impression qu'on est très inspiré devant le micro, on se laisse aller, on regarde nos doigts aller tout seul, on se dit « Ah là, c'est la prise, je suis dans quelque chose qui va bien ». Et puis après, on réécoute toutes les prises et on choisit celle-ci parce qu'elle paraît la plus libre. Et en fait, 15 ans après, vous écoutez, vous trouvez ça beaucoup trop scolaire. Je ne trouve pas que c'est scolaire, mais tout de même, sans être dur avec moi-même, je trouve que ça manque de lâcher prise.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus libre.
Je trouve mes derniers disques meilleurs. Mais est-ce que ce n'était pas déjà le cas à l'époque? Il faut beaucoup d'années avant de se détacher de ses propres disques. Il faut attendre au moins 10 ans pour avoir assez de recul.
Alors, vous parlez des conditions d'enregistrement. Dans votre récit, vous faites une place aussi à vos premiers enregistrements. Il y a un enregistrement dans une grange, je crois.
Oh là là, ça c'était un cauchemar.
Oui, un cauchemar, mais ça m'a frappé. Vous dites que c'est sans doute aussi un apprentissage de l'authenticité. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Absolument. Vous voyez, Barbara, puisque nous parlions d'elle, ses premiers spectacles, enfin, pas ses tout premiers, mais bon, elle était très jeune, c'était à l'Écluse pendant plusieurs années dans ce cabaret où elle disait elle-même que le premier rang était sur ses genoux, elle jouait, elle s'accompagnait elle-même à un piano droit, donc elle avait sa tête de côté, c'était minuscule. L'Écluse existe toujours, enfin maintenant, ça, c'est plus un restaurant, mais on peut voir, si on descend à la cave, comme là, c'est sur les quais des Grands Augustins, la vétusté de cet endroit. Puis elle a chanté là pendant des années. C'est une grande école. Alors enregistrer ses premiers disques de manière aussi catastrophique, parce que là, c'était dans une... Vous voyez, c'est même pas un studio d'enregistrement. En plus, c'était sur un piano ancien, et pourquoi pas, ça peut être très très beau d'enregistrer sur un Steinway des années 20. Mais c'était dans une grange, en effet, on entendait les oiseaux dehors, il y avait un chat, il n'y avait pas de cabine son, donc l'ingénieur du son, il était dans la pièce. Donc s'il éternuait, il fallait recommencer. Et puis le directeur artistique était dans son fauteuil, là juste derrière moi, à 2 mètres derrière moi. Il m'agaçait. Et il avait un chat qu'il caressait, mais le chat de temps en temps, il sautait dans le piano. Donc pareil, on arrêtait la prise. C'était vraiment très difficile. Mais après tout, pourquoi pas? D'abord parce que c'était une toute petite maison de disques. Ce disque, on ne le trouve plus. Je trouve ça beaucoup plus dangereux aujourd'hui, les jeunes pianistes qu'on propulse dans une major, c'est-à-dire une grande maison de disques, et on inonde le monde par ce premier disque. Les premiers disques sont souvent maladroits. Et puis, en même temps, c'était apprendre un métier. Enregistrer dans ces conditions déplorables, c'était apprendre mon métier. Peut-être que j'ai gagné cette passion de l'enregistrement, de l'enfermement, d'être dans un studio pendant 5, 6, 7 jours, loin du monde. J'ai enregistré 62 disques, vous vous rendez compte? Eh bien, ça vient peut-être de là, de ces premiers moments très difficiles. Et après, je me suis amélioré, je me suis cherché, j'ai essayé de trouver des solutions et je me suis rendu compte comme il était... structurant de se livrer au micro. C'est un métier totalement différent de celui de pianiste de scène.
Vous écriviez, je me souviens dans votre premier récit, Montrez-moi vos mains, qu'à la fin des concerts, quand il faut dédicacer, vous avez envie de disparaître.
Et oh, pas vraiment.
Plus aujourd'hui, peut-être.
J'ai écrit ça vraiment parce que le moment de la dédicace, c'est pourtant un moment de convivialité. Alors oui, vous avez raison. J'ai envie de me cacher après le concert.
Voilà, c'est ce que vous
écriviez. Après le concert, moi, j'ai envie de me cacher. D'autant que je ne suis jamais content de moi, donc j'ai envie d'être tout seul et qu'on me fiche la paix.
Ah bon, vous n'êtes jamais content?
Avec d'autres musiciens, oui, parce qu'il y a eu l'échange sur scène. Mais quand je donne un récital, non. Je rentre à mon hôtel, je n'ai qu'une envie, c'est de travailler. Je ne veux pas dire, mais tu es nul, Alexandre, il faut arrêter ce métier, j'en suis pas là. Mais je me dis, là, dans le deuxième mouvement de la sonate funèbre, il faudrait que tu travailles un peu plus. Là, tes octaves étaient... Hein, bon, c'est une bonne... Vous voyez, en travailleur, là, je veux que ça, comme je ne sais plus qui avait dit, vous voyez, j'ai plus de mémoire, le plus important dans ce métier, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que la veille. Donc il y a vraiment ça, le travailleur qui cherche, qui laboure. Là, chaque concert est une étape. Donc j'ai plutôt envie d'être seul. Mais j'avoue tout de même qu'être là, à une table de dédicace, voir des gens. Il y a 2 jours, j'étais dans une petite ville française et une femme vient me voir. Et on ne s'était pas vu. Je ne l'avais pas vu depuis l'âge de 14 ans. Et je l'ai reconnue, on s'est tombé dans les bras. Donc on se rend compte à ce moment-là de la dédicace que le concert devient un lieu de ralliement, de retrouvailles, de remerciements. Parfois, c'est juste on se regarde. Parfois, on ne parle pas la même langue. La personne ne parle ni français ni anglais. Je parle un peu italien, donc si c'est italien, on peut. Mais sinon, ben voilà, ça ne marche pas. On se dit juste merci, on se regarde et ça suffit. Et ça fait beaucoup de bien à certaines personnes du public et ça me fait du bien à moi. Je mets un visage concret sur le public et sur chaque personne. Vous voyez, quand on joue sur scène, on joue, je reviens à Barbara, elle disait ce monstre à 1000 mains. Eh bien, moi, j'ai envie de voir chacun des doigts de toutes ses mains. J'aime la dédicace pour ça. Je ne vois pas chacune des personnes qui constituent le public, mais quelques-unes.
Alors, vous parliez à l'instant, Alexandre Tarot, de votre mémoire qui vous fait défaut. Dans la place que vous faites dans ce récit, à vous-même, dans une dimension charnelle, nous qui ne voyons en vous sur scène qu'une espèce de dieu de l'Olympe, il y a cette question que vous abordez sans phare de la perte de mémoire et de la nécessité de la partition.
Oui.
Comment vivez-vous cela ?
Bon, très bien, sans aucun problème. J'ai commencé parce que je n'avais plus le choix. Je n'y arrivais plus, donc j'ai commencé. Je me suis dit, est-ce que j'arrête ce métier ? Non, je vais continuer, mais avec la partition. Et c'est vrai que très peu de pianistes le faisaient à l'époque, voire aucun. Et donc ça a été, et je m'en réjouis aujourd'hui, j'ai pu, par ce geste-là, de mettre le texte sur scène. Et finalement, c'est la musique qui est le plus important au final. Et de me sentir bien, donc de jouer mieux, de me reconnecter à ce métier, aux belles choses de ce métier. Bien, j'ai pu donner un signal à d'autres pianistes. Beaucoup m'ont remercié depuis, encore maintenant, des pianistes, parfois même jeunes, qui ont de gros problèmes de mémoire et qui me disent ben, merci parce que depuis que je vous ai vu sur scène, ben, je joue avec partition et ça y est, j'ai retrouvé le plaisir de la scène, etc.
Qu'est-ce qui se jouait dans ce choix de, ou dans cette obligation de jouer par cœur, sans partition, quelque chose de l'ordre de la performance, du cérémonial, d'un rituel bien ancré, d'une tradition ?
C'est au 20e siècle. Si vous voulez, les premiers pianistes, donc nos ancêtres, que sont Czerny, Chopin, Liszt, ils ne jouaient pas avec partition parce que c'était des improvisateurs. Chopin pouvait mettre sur son programme qu'il va jouer sa seconde ballade de Chopin. Et il y a des témoignages qui disent, ben voilà, ça durait 20 minutes. Non, la deuxième ballade, elle dure 7 minutes. Ça veut bien dire qu'il partait, là, il s'évadait et il prenait, souvent, ces pianistes, compositeurs, improvisateurs, prenaient le thème d'un de leurs copains. Liszt pouvait prendre le thème de Chopin ou de Czerny et puis le broder, faire une improvisation. Donc, il n'avait pas besoin de la partition. Et c'est vraiment à la mort de ces grands génies fondateurs que la partition arrive. Ils ont, tout au long de leur vie, Liszt ou Chopin et bien d'autres, publié des partitions, parce que c'est ce qui leur faisait gagner de l'argent. Et puis ils avaient des élèves, il fallait bien que les élèves apprennent. Voilà. Donc il y avait tout un commerce. Mais quand eux sont morts, la notion de l'interprète et le métier d'interprète est né. C'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Leurs élèves, qui ont repris à leur tour, mais avec des partitions. Et petit à petit, cette partition s'est figée jusqu'aux années, voilà, les années de mon adolescence, où on est un peu plus libre aujourd'hui et encore, où chaque part de mesure devenait presque des barreaux de prison, où le tempo écrit par le compositeur n'était pas remis en cause, jamais. Où les indications de liaison, de ponctuation, de phrasé devaient être vraiment reproduits intacts. Alors que ces compositeurs, en tout cas les compositeurs romantiques, c'était tout le contraire. Il y a d'ailleurs tout un travail qu'on pourrait faire aujourd'hui et dans les années futures sur l'interprétation de Chopin, par exemple, ou de Liszt, avec plus d'improvisation de la part des interprètes.
Au fond, la musique au 19e, la musique classique, c'était une jam session, quoi.
Absolument. Ah, ça allait beaucoup plus loin que ça. Chopin disait des poèmes, Liszt. Et vous savez même qu'on sur certains programmes, c'était marqué « Chopin va vous dire un nocturne ». C'est-à-dire qu'il jouait, mais pour dire « jouer », on disait « dire ». Ça veut dire que ces musiciens-là parlaient par leur instrument. Le piano était un faux chanteur, un faux diseur, un faux acteur. Et Chopin était mime. On ne le dit pas assez, mais parfois, dans ses concerts, il se levait et il mimait les personnes qui étaient là dans la salle. Donc il faisait rire, il avait... Le pianiste, au départ, c'est un showman, certes, dans des petits salons au départ, puis dans des salles de plus en plus grandes, parce que le piano faisait rêver les foules et aussi parce que les instruments, le piano devenait de plus en plus grand avec une force sonore de plus en plus impressionnante. Et donc les pianistes sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, quand on voit par exemple Lang Lang, l'un des pianistes les plus connus, avec des vestes à paillettes et des choses comme ça, c'est des gens qui disent « mais c'est horrible ». Ils oublient au passage que nos ancêtres étaient... Les paillettes n'existaient pas à l'époque, mais Liszt, il se changeait de coiffure, le tout Paris changeait sa coiffure le lendemain matin. J'exagère à peine. Liszt est arrivé en collant sur scène. Donc ces pianistes, au départ, étaient des sex symboles, des rockstars.
Et il y a aujourd'hui un cérémonial qui prévoit que la partition, enfin qui prévoyait, c'est en train de changer, hein, puisque vous avez opéré une révolution, que la partition soit escamotée. C'est quelque chose qui m'a toujours interrogée.
Oui, parce qu'en plus, on applaudit la mémoire. On applaudit la performance. Oui. Et je me suis jamais senti à l'aise avec le côté sportif sur scène, le grand théâtre, du rituel, du récital. On arrive en même temps en noir devant un piano noir. C'est Rubinstein qui disait qu'il n'avait pas peur de la mort à la fin de sa vie parce qu'il avait joué toute sa vie devant un cercueil habillé en croque-mort. Il y a quelque chose d'extrêmement... C'est plus que sobre, c'est lugubre. Hein, rentrer sur scène comme ça, un petit salut presque à la militaire, se mettre au piano. Et en même temps, ce pianiste-là, tout en noir, on le met dans la lumière, au centre de la scène. Donc il est extrêmement lumineux. Et on l'adule dans certains pays, les pianistes sont des dieux, on peut utiliser ce mot.
Par exemple au Japon.
Au Japon, oui. Ah oui. Et puis il va jouer des morceaux de bravoure, des morceaux qui entraînent. Le pianiste peut faire son show hein, sur scène.
Mais ce n'est pas votre cas, vous êtes toujours
à l'adolescence, oui. Je vous disais tout à l'heure que j'adorais jouer de plus en plus vite. Je jouais des études de Chopin plus vite que tout le monde et j'adorais, je voulais que ça se sache. Et puis, je pense que pour nous tous, ça s'érode et assez rapidement, cette envie de se montrer. Il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond d'aller chercher au fond, justement, du compositeur, de l'œuvre et de se fondre dans le fond. On est comme des médiums, c'est-à-dire que le texte, plutôt qu'être là sur la partition, alors sur la partition où elle vient du ciel, là, on va dire qu'elle rebondit sur la partition, elle arrive dans votre corps, qui est un filtre, elle rejaillit de vos doigts, elle touche cet ivoire, aujourd'hui ivoire de synthèse, jusqu'au marteau, vous savez ces petits marteaux en feutre qui accrochent, qui tapent sur les cordes, des cordes qui sont tendues, c'est des tonnes de force sur ces cordes, et puis ce son qui reste doux malgré ces cordes et cette pression, et ce son qui va vibrer jusqu'à vous, jusqu'à vos oreilles, parfois au dernier rang du dernier balcon. Donc c'est toute une chaîne comme ça d'énergie, et nous ne sommes qu'un filtre, un médium, mais cette sonate de Chopin ou cette étude de Liszt, elle est filtrée par nous-mêmes. Mais nos filtres, c'est aussi toutes nos casseroles, c'est notre adolescence, nos professeurs, nos traits rouges d'une violence incroyable sur la partition de notre enfance, et puis nos amours, nos échecs, notre vie faite de tunnels sombres et de lumière éblouissante.
Mais transfigurée, et vous ne jouez plus pour vous, mais pour les autres.
Ah, alors ça, vraiment, être un musicien, c'est jouer pour les autres.
Avant toute chose. Alors, il nous reste quelques minutes, Alexandre Tarot, avant la fin de cet entretien qu'on voudrait prolonger longtemps, longtemps. Je voudrais qu'on s'arrête, on a parlé de Chopin, on aurait pu parler aussi de Bach, à qui vous réservez des lignes très intéressantes sur la manière dont ça structure aussi la personne que vous êtes. Et puis, il y a la place que vous faites à la chanson. À ce que certains appellent la culture populaire. qui a aussi bercé votre enfance. Dans un de vos entractes, dans le livre, vous faites l'énumération de tout ce que vous écoutiez au Walkman et de tout ce que vous regardiez à la télévision, ce qui vous rapproche du lecteur ordinaire. Et puis ça s'est traduit par des choix aussi. Alors il y a eu le cinéma qui a occupé une place très importante puisque vous avez accompagné des ciné-concerts, des films, quand vous étiez jeune. Et vous avez fait un magnifique album de musique de film que vous avez retravaillé, je crois, pour les jouer. Et puis il y a des duos. Et il y a parmi ces duos un que je voudrais qu'on écoute avant de se quitter, c'est celui avec Camélia Jordana.
Jamais la fin d'été n'avait paru si belle. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. On voit se rassembler au loin les hirondelles. Mais il faut se quitter, pourtant l'on s'aimait bien. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir. Déjà les couleurs de septembre et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin, que ce temps couleur d'ombre. Je reste sur le quai, mon amour, à bientôt. Quel joli temps. Mon amour au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour nous reviendra peut-être. Peut-être un soir au détour d'un printemps. Se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour.
Camélia Jordana, accompagnée par Alexandre Tarot, qui est mon invité ce matin sur Aligre FM 93.1. Depuis ce matin, 10h, nous évoquons ce récit, mais bien d'autres choses au fond aussi, Alexandre. Ce récit que vous avez intitulé d'un mot un peu étrange, sans doute le plus vague du vocabulaire de la musique, touché.
Touché, E accent aigu, oui, parce qu'il y a une photo dessus. On ne sait pas si je suis touché par le piano, ou si c'est le piano qui est touché par moi ou par nous, ou si je suis touché par la vie. Je trouvais que c'est un titre si énigmatique et qui pouvait résumer en quelque sorte tout ce récit.
Et il y a aussi dans ce titre quelque chose qui évoque un mystère insoluble, qui est la magie du toucher sur un piano. Qu'est-ce qui fait qu'un interprète à ce plus que d'autres n'ont pas. Alors, il y a le travail, vous en parlez beaucoup, et puis il y a peut-être autre chose de
c'est
l'ordre.
Comme une voix. Vous venez d'entendre Camélia Jordana dans cette chanson, c'est absolument extraordinaire, mais vous pouvez être touché par cette voix, et votre voisin dans la salle de concert ne va pas être touché, par contre, il va être très touché, parce qu'il y a un lien intime qu'on entretient avec une voix, il va être très touché par une autre voix qui ne va pas vous toucher. C'est pareil avec un pianiste. Et quand j'entends « Ah, vous avez un beau toucher », ce que j'entends, c'est « Je suis touché ». Donc, on se touche. Un pianiste, c'est quelqu'un qui touche par son toucher.
Et vous n'avez toujours pas de piano chez vous ?
Non, surtout pas.
Ce qui vous permet aussi de fréquenter...
De toucher à d'autres choses.
Voilà, absolument, on va s'arrêter sur ces mots, Alexandre Tao. Merci à vous d'être venu ce matin au micro d'Aligre FM pour parler de ce récit publié aux éditions Grasset, Touché, un récit qui nous a effectivement beaucoup touché. Édition Grasset que vous quittez avec beaucoup d'autres écrivains pour aller dans une autre maison d'édition et pour
on
un
verra,
autre récit.
Pour l'instant, aucun projet, on verra bien.
Et les concerts ?
Et les concerts, là je repars en Bretagne, je joue dimanche à Saint-Claude, la semaine prochaine je vais à Vienne, vous voyez, ça valse dans tous les sens. Et ensuite, ben, je ne sais plus, début juin je joue avec l'orchestre de Cannes, avec l'orchestre de Montpellier, mi-juin, voilà. Après je pars en Hollande. Les pianistes ne sont pas comme les chanteurs d'opéra ou les chefs d'orchestre qui restent minimum une semaine dans une ville. Nous, c'est une nuit, deux nuits.
Nomade, voilà, ça. Et nomade. Toujours nomade. Merci Alexandre Tao, merci également à Philippe Donnefort qui était aujourd'hui à la régie. L'émission sera bientôt disponible en podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, c'est Thierry Gilibeuf que vous retrouverez à ce micro. Bonne semaine à toutes et à tous. Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.